Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. En 2026, la République de Corée et la France vont célébrer le 140e anniversaire de leur relation diplomatique établie par le traité d'amitié, de commerce et de navigation du 4 juin 1886. C'est avec cette nouvelle que nous ouvrons l'édition de ce mercredi. « 140 ans, ça se fête ». Pour présenter les grandes lignes des festivités, une conférence de presse a été organisée hier à l'ambassade de France à Séoul. À l'invitation de M. Philippe Berthoud, ambassadeur de France en Corée du Sud, et M. Pierre Morcos, conseiller de coopération et d'action culturelle, Ohayon s'est rendu sur place.
Alors l'objet de cette conférence de presse, il est double. D'une part, nous voulons vous présenter en avant-première et en exclusivité un certain nombre des jalons les plus marquants des célébrations en Corée que nous allons organiser pour ces 140 ans de relations diplomatiques franco-coréennes. Et en second lieu, tout à l'heure, après nos interventions respectives et avant le jeu de questions-réponses, nous allons aussi dévoiler pour la première fois l'affiche des 140 ans.
Bonjour Johnson, bonjour à tous. L'événement a débuté avec la salutation de Monsieur Berthoud. L'ambassadeur est ensuite revenu sur les moments forts durant les 139 années d'amitié écoulées.
Bon, la première date, bien sûr, maintenant vous la connaissez, 4 juin 1886, signature du traité d'amitié. 1896, inauguration de la légation française en Corée. Notre premier représentant officiel en Corée, c'est Victor Collin de Plancy qui a joué un rôle extrêmement important pour faire connaître la Corée de Joseon en France. C'est notamment lui qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place du pavillon coréen pour l'exposition universelle de 1900, un pavillon qui a à l'époque attiré plus de 50 000 visiteurs.
Une année de créativité, d'opportunité et de solidarité. Tel est le slogan de la célébration des 140 ans des relations diplomatiques Séoul-Paris. Mais pour les impatients, qu'aurons-nous droit en 2026? En résumé, des visites politiques de haut niveau ouvrant la voie des dialogues d'envergure. Les journalistes sur place étaient curieux de savoir si le président Emmanuel Macron était attendu prochainement au pays du matin clair.
Le président de la République a été invité depuis un certain temps en Corée. La situation politique intérieure en Corée, depuis la fin de l'année dernière, a rendu évidemment ce projet plus compliqué, mais la question est à l'étude à Paris et bien sûr, il faut arriver à coordonner les agendas de nos chefs d'État. Donc c'est encore prématuré de vous donner des indications précises, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet qui est à l'étude à Paris de façon très claire.
Une cérémonie d'inauguration plein cœur de Séoul, incluant des événements localisés en province, notamment à Pucheon, une ville qui vous est familière pour son festival de films fantastiques. De multiples manifestations tout au long des saisons et dans tout le pays du matin clair, dans les domaines culturels, éducatifs, scientifiques et sportifs, comme nous l'explique le conseiller de coopération et d'action culturelle, Pierre Morcos.
Et même si cette saison va véritablement commencer au printemps, au mois de mars, en réalité, elle a déjà, d'ores et déjà commencé avec deux grandes expositions. L'une consacrée à Cézanne et Renoir au Séoul Art Center à partir des collections du musée de l'Orangerie et du musée d'Orsay. Et une autre exposition ici même à l'ambassade de photographies sur justement l'architecte Kim Chung-up et l'architecte Le Corbusier mentionné par l'ambassadeur.
Avant de repasser le micro à Ko Johnson pour le reste des actualités, je vous propose d'écouter la question que j'ai posée à l'ambassadeur sur le site de la conférence de presse hier et sa réponse. Et je vous retrouve en fin d'émission pour invité du mercredi.
Monsieur l'ambassadeur, en début de la conférence, vous nous avez cité les moments forts durant ces 139 dernières années d'amitié. Mais y a-t-il un événement que vous aimeriez voir absolument se réaliser en 2026 pour les 140 ans?
Je pense que dans un des événements les plus emblématiques, en particulier dans le domaine culturel, sera L'ouverture du Centre Pompidou à moi, c'est un projet sur lequel nos institutions travaillent depuis un petit moment. Nous sommes en France orphelins du Centre Pompidou qui a fermé ses portes suite à un grand programme de rénovation. Mais ce qui nous console, c'est de savoir que ces collections vont voyager et que le plus beau du Centre Pompidou va venir en Corée pendant plusieurs années pour le plus grand bonheur des Français, des Coréens, surtout amateurs d'art, petits et grands, avec le souci de partager ce trésor culturel que nous avons la chance d'héberger à Paris, mais qui donc va avoir un programme de globe-trotteur.
Les agents pénitentiaires sont chargés de gérer les détenus et de maintenir l'ordre dans les établissements pénitentiaires. Leur métier est considéré comme stable et sûr, mais les difficultés qu'ils rencontrent sont bien plus importantes que qu'on ne le pense. En octobre dernier, le taux moyen d'occupation des établissements pénitentiaires à travers le pays s'élevait à 130%. Autrement dit, près de 64 000 détenus se retrouvaient confinés dans des espaces prévus pour 50 000 personnes. Alors que la population carcérale est passée de 52 000 détenus en 2021 à plus de 63 000 cette année, le nombre de personnels pénitentiaires demeure inchangé à environ 16 000. En conséquence, le nombre de prisonniers par agent est passé de 3,1 en 2021 à 3,8 en octobre 2025. Compte tenu du travail en rotation, ce chiffre est en réalité plus élevé. Cette surpopulation expose inévitablement les membres du personnel à diverses violences. Le nombre d'agressions commises par des détenus contre eux a augmenté de 57%. Les plaintes déposées par des détenus contre les gardes sont également innombrables, mais les moyens de défense de ces derniers sont limités. Leur santé mentale suscite également des inquiétudes. D'après une étude réalisée l'année dernière par le ministère de la Justice, 20% des personnes interrogées appartiennent à un groupe à risque sur au moins un indicateur de santé mentale, en particulier en ce qui concerne l'alcoolisme, la dépression et les pensées suicidaires. Sur le terrain, beaucoup estiment qu'ils méritent de meilleures conditions de travail à la hauteur de la mission de garantir la sécurité publique et le maintien de l'ordre. Le ministère partage cet avis et estime qu'une amélioration de leur traitement, notamment pour l'accès au cimetière national, est nécessaire. Actuellement, la loi sur les cimetières nationaux stipule que les policiers et les pompiers retraités ayant servi plus de 30 ans peuvent y être inhumés. En revanche, les agents pénitentiaires n'y ont droit qu'en cas de décès en service. Le pain de pompiers conçu par le service des pompiers de Chuncheon dans le Gangwon connaît un grand succès dans la région en alliant la promotion de la sécurité et l'action caritative. Ce pain est planifié sur le motif de représenter la passion et le dévouement des pompiers et de leur redonner de l'énergie après leur lutte contre les flammes pour protéger la vie des citoyens. En forme de croissant, il est recouvert d'un glaçage rouge et garni de crème fraîche. Une rose bleue est plantée dans le pain pour représenter l'eau et une petite étiquette portant le chiffre 119, le numéro d'appel des pompiers, est également piquée au sommet. Cette initiative remonte à août dernier. Le service des pompiers a lancé un projet de collaboration avec des boulangers locaux sous le thème « Des pompiers qui font du pain et des boulangers qui transmettent la sécurité ». Objectif : promouvoir la prévention des incendies et la culture de la sécurité. Après une sélection, une boulangerie locale célèbre a été choisie comme partenaire. Les pompiers ont apporté leurs idées pour la création du pain et les boulangers, de leur côté, les ont intégrées dans leurs recettes. À l'origine, sa vente était prévue jusqu'au 19 novembre, avec un total limité à 500 pièces. Mais face à l'engouement des habitants locaux, elle a été prolongée jusqu'au 30 novembre, sans limitation de quantité. De plus, à l'occasion de la 63e journée des pompiers, le 9 novembre, les acheteurs ont reçu, lors d'un événement spécial, un porte-clés en édition limitée qui représente le chien de secours des services d'incendie et de secours 119. Les bénéfices issus de cette prolongation de vente seront utilisés pour acheter des équipements de sécurité destinés aux populations vulnérables face aux incendies. Maintenant, je vous propose de partager deux commentaires de nos auditeurs. À propos de notre programme « République de Corée, 80 ans d'indépendance », NM Nadine a laissé le message suivant. Un énorme merci pour votre travail sur République de Corée, 80 ans d'indépendance, tant par la clarté de vos explications que par la qualité de vos sources. Et Marie-Odile Bruno, de son côté, a commenté « Génial ». Merci beaucoup pour ces commentaires. Et avant d'enchaîner avec le prochain élément, écoutons une chanson. Voici « Hero » d'Akmyo.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 12 novembre, vous êtes en compagnie de Ko Jang-san. Le théâtre de style Madang Nori, Hong Gil-tung arrive, sera représenté sur scène à Séoul. Le Madang Nori est une forme du spectacle théâtral folklorique interprété dans une cour. Ce spectacle réinterprète de manière humoristique et satirique le célèbre récit héroïque de l'époque du royaume Joseon, l'histoire de Hong Gil-tung, écrit par Ho Jun. Il associe l'histoire du personnage principal nommé Hong Gil-tung, qui s'est battu contre les contradictoires d'une société hiérarchisée, aux problèmes contemporains tels que le chômage des jeunes, les inégalités sociales et le fossé générationnel. Il délivre ainsi un message intemporel. Le changement le plus marquant de cette édition est l'apparition d'une Hong Gil-tung féminine. Deux artistes se partagent le rôle et interprètent chacune le personnage à leur manière. Dans cette représentation, les mouvements acrobatiques inspirés du taekwondo et la chorégraphie sur patins à roulettes d'une vingtaine de personnes captivent le regard des spectateurs. Les effets de magie mettent en valeur les capacités extraordinaires du héros et estompent les limites entre le réel et le fantastique. Les décors, éclairages, costumes et accessoires ont été réalisés par des créateurs de premier plan, contribuant à l'excellence de la production. En particulier, les costumes, combinant les vêtements traditionnels et la sensibilité moderne, incarnent visuellement le concept du super-héros coréen. Ce spectacle se tiendra du 28 novembre jusqu'au 31 janvier 2026 au Théâtre national de Corée à Séoul. À la fin du mois dernier, un quotidien sud-coréen a publié une publicité en pleine page. Présentée sous forme de lettre, elle défendait et soutenait un acteur sud-coréen qui avait défrayé la chronique au printemps dernier à cause d'une controverse sur sa vie privée et avait disparu de la scène publique. Cette publicité serait l'initiative de fans japonais de l'acteur. Aujourd'hui, il est courant que les admirateurs offrent des publicités pour célébrer les événements marquants de leurs artistes favoris, comme leur anniversaire, l'anniversaire de leur début ou encore la sortie d'un album ou d'une nouvelle œuvre. Dans ce contexte, même une publicité destinée à défendre un artiste impliqué dans un scandale est ainsi apparue. En Corée du Sud, la culture des publicités de fans s'est installée au début des années 2010, principalement avec des annonces d'anniversaires dans le métro. Celles célébrant les anniversaires d'idoles et de stars de la K-pop ont commencé à apparaître les unes après les autres sur de grands panneaux publicitaires et sur les portes-palières des stations de métro. Elles se sont ensuite étendues au bus, à la radio et aux panneaux publicitaires extérieurs. En janvier 2011, environ 9000 admirateurs du groupe d'idoles JYJ ont collecté plus de 150 millions de won, soit 90 000 euros, pour diffuser des publicités sur 120 bus, principalement à Séoul et dans les grandes villes. Par ailleurs, le 13 juin 2023, une publicité célébrant le 10e anniversaire des débuts de Jin, membre de BTS, alors en train d'effectuer son service militaire, est apparue en bas de la première page du journal Kukbang Ilbo. C'était la première fois qu'une publicité pour un artiste de variété était passée dans ce quotidien édité par l'Agence de la Défense. Cette publicité avait été préparée par les fans du chanteur. Le coût de ce type de publicité varie entre plusieurs millions et des centaines de millions de won, soit de quelques dizaines de milliers d'euros, à plus de 60 000 euros. Pour les annonces dans les quotidiens, une publicité en pleine page coûte environ 6 000 euros. Les tarifs pour le métro, quant à eux, varient considérablement selon l'emplacement et le support. La saison du kimjang est de retour. Le kimjang consiste à préparer une grande quantité de kimchi qui sera consommée pendant l'hiver. La majorité des Sud-Coréens le font entre fin novembre et début décembre. Mais récemment, des changements commencent à apparaître. Selon une enquête menée par l'Institut national de l'économie rurale, à propos du kimjang de cette année, 62% des interrogés ont déclaré qu'ils prépareraient eux-mêmes leur kimchi, soit une baisse de 2 points par rapport à l'année dernière. En revanche, 33% achèteront du kimchi dans le commerce, en hausse par rapport aux 30% de l'an dernier. À noter que ce taux ne cesse d'augmenter depuis 2022. La raison la plus évoquée pour préparer du kimchi soi-même est pour adapter le goût de la famille, suivi de pour s'assurer de la qualité des ingrédients. Pour l'achat de kimchi industriel, les principales raisons sont la possibilité d'acheter seulement la quantité nécessaire et que la préparation du kimchi est trop contraignante. Concernant la quantité de kimchi, 69% prévoient d'en faire autant que l'année dernière, tandis que 16% envisagent de réduire la quantité. Les raisons de la diminution sont notamment la baisse de la consommation de kimchi à la maison et la commodité d'acheter celui vendu en magasin. La quantité moyenne de choux achetés pour le kimjang s'élève à 18 têtes par foyer de 4 personnes. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à l'an dernier. Alors que les consommateurs préparent moins de kimchi, la production agricole augmente. Cette année, la production de choux d'automne devrait atteindre 1,2 million de tonnes, soit une hausse de 3% par rapport à l'an dernier, et celle de navets, 350 000 tonnes, en progression de 7%. L'Institut prévoit que l'approvisionnement des principaux ingrédients pour le kimjang sera assuré, ce qui devrait réduire le coût par rapport à l'année dernière. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité de mercredi présenté par Oh Hayoung. Avant de la rejoindre, écoutons une chanson de Dorajo. Voici Kimchi.
Chaque mercredi, vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi et vous avez rendez-vous avec Oh Hayoung.
Laure Biancrozy, bonjour et ravie de vous recevoir de nouveau dans cette émission.
Merci beaucoup, Hayoung, pour cette merveilleuse invitation. Je suis vraiment très heureuse de revenir à votre émission absolument sublime que je suis beaucoup depuis la Suisse. Eh bien, je suis venue cette année pour lancer mes deux ouvrages traduits en coréen, ce qui est un grand honneur et une grande joie.
Avec nous également Kim Mounian, qui dirige eSoup. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas votre maison d'édition, pourriez-vous nous la présenter?
Oui, eSoup est une maison d'édition fondée en 2008. Mm-hmm. Ça fait déjà à peu près 17 ans. Nous avons publié environ 350 livres jusqu'à présent. Oui. Et nos domaines principaux sont la bande dessinée, la science humaine, mm-hmm. philosophie et l'art, etc. En ce qui concerne nos branches, eSoup Eye, Eye ça veut dire enfant. Mm-hmm. eSoup Eye publie des livres pour enfants. eSoup et Olpemi. Olpemi ça veut dire hibou. Mm-hmm. eSoup publie des romans. Et Citron Macaron publie des livres de cuisine. Mm-hmm. eSoup et Olpemi a publié quelques romans, mais comme ça n'a pas bien marché, nous ne l'exploitons quasiment plus. Mais avec les livres de Laurent Crozet, j'aimerais bien relancer cette collection.
Alors, vous venez de publier en même temps deux livres de Laurent, Polaroid et Made in Korea. Déjà, en choisir un, de le faire traduire et de publier, c'est un gros travail. Mais deux d'emblée, qu'est-ce qui vous attirait tant chez cet auteur?
Oui, je pensais que publier les deux livres simultanément pourrait mm-hmm. davantage séduire le lecteur coréen. Mm-hmm. De plus, bien que Made in Korea, son œuvre la plus récente, il est vrai que j'ai eu le sentiment que pour les Coréens, contrairement peut-être aux Européens, il serait difficile d'y découvrir quelque chose de vraiment surprenant ou nouveau, car il s'agit en fin de compte de la découverte de la Corée par le regard d'une étrangère, comme si elle est coréenne d'origine. C'est pourquoi j'ai proposé de voir les premiers ouvrages de Laurent Mignon, et étonnamment, j'ai pensé que Polaroid, son roman autobiographique, était un livre permettant de mieux comprendre l'autrice.
Alors, Laure, comment vous vous êtes sentie lorsque Issu vous a proposé de publier ces deux livres en Corée?
J'étais d'abord très émue qu'on me dise pas je vais en publier un, on verra bien, mais déjà deux, donc c'était vraiment un immense cadeau. Et puis ensuite, j'ai trouvé extraordinairement logique, puisque l'un, c'est mon histoire à moi en tant que Coréenne adoptée en Suisse, et l'autre, c'est un Français adopté, donc c'est pas moi cette fois-ci, un monsieur qui a un diabète différent du mien, qui va découvrir la Corée. Et c'est moins sur la Corée, mais sur la perception de la Corée. Donc je pense qu'en cela, ça peut intéresser également les Coréens, parce que ils vont pas, bon, le pays, ils le connaissent, mais de voir comment les gens peuvent se tromper, comprendre ou pas comprendre certaines choses, peut être assez amusant. Il y a pas mal de quiproquos. Mais il y a vraiment une logique, c'est un diptyque qui n'était pas du tout voulu, parce qu'il y a beaucoup de livres entre deux et qui n'ont rien à voir avec ni la Corée, ni l'adoption, ni moi-même.
Alors, le 21 octobre, vous avez donc présenté ensemble ces deux ouvrages traduits en coréen à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'ambassade de Suisse à Séoul. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
Alors, pour moi, c'était le terme est très bien choisi, Ayoung, parce que c'est vraiment, c'était une cérémonie, c'était une fête extraordinaire. Mm-hmm. Déjà, l'endroit est magnifique, le Suisse Hanok.
C'est un hameau, une maison traditionnelle.
Voilà, exactement. Coréenne. Mais on l'appelle Suisse Hanok, Suisse à l'anglaise. Et effectivement, c'est un endroit qui tient un peu du chalet, avec le bois chaleureux. En même temps, on voit bien le hanok, l'esprit comme ça très épuré. C'est un lieu contemporain et qui en même temps ne renie pas la tradition, qui est un endroit lumineux, vraiment, qui fait honneur à la Suisse et aux architectes. Donc c'était sublime. Ensuite, Madame l'ambassadrice, donc la nouvelle ambassadrice, nous a reçus avec une simplicité, une gentillesse, une chaleur très rare dans ce monde un peu guindé des ambassades. La salle était comble. Le public avait déjà, s'était déjà procuré les ouvrages. Ils ont tous attendu avec beaucoup de générosité, de gentillesse, d'avoir leur signature. On a même fait des polaroïdes. Vous aviez eu l'idée, peut-être, que de faire des polaroïdes vintage serait une bonne idée. Effectivement, ça amusait tout le monde. On est beaucoup plus beau comme ça qu'avec les filtres Instagram. Oh. Je dois dire qu'on est magnifique parce qu'on nous voit un peu flou, donc on est magnifique. Et puis après, il y a eu, c'était très joli, un buffet avec des macarons, des mignardises et aussi des vins suisses. Mais moi, je n'ai pas pu les goûter parce que j'étais en train de dédicacer. Et après, on est allé dans un beau restaurant choisi par mon éditrice Monyang. Et mes amis avaient même préparé un gâteau qu'ils sont allés chercher et j'ai eu la version française et coréenne de joyeux anniversaire. Donc pour moi, c'était une des plus belles soirées de ma vie.
Joyeux anniversaire.
Merci infiniment.
quelle était la réaction des lecteurs?
Je crois qu'ils sont assez émus du fait que, quand ils me voient, je ne suis pas une Suissesse qui vient présenter son travail en Corée. Je suis quand même pour eux une Coréenne, même si je n'ai pas grandi en Corée. Bon, c'est vrai que ça fait 30 ans que j'ai des liens avec le pays. Et puis, je crois que ça leur a fait très plaisir de voir que c'est un retour au pays réussi. C'est-à-dire que je n'ai pas d'amertume, je ne les culpabilise pas, parce que ça, parfois c'est douloureux de sentir qu'on a abandonné ses enfants. Et là, ils ont vu que j'étais très souriante, très heureuse d'être là. Et je crois que la seule chose qui me chagrine, c'est de ne pas parler encore la langue. Donc je vais essayer de chercher une résidence d'écriture en Corée pour y passer 3 mois à une année, si tout se passe bien, et de prendre des cours privés pour vraiment communiquer cette fois-ci avec les gens, ni en anglais, ni en français, ni par le truchement d'un traducteur, mais vraiment de cœur à cœur.
À part vos amis, le public était 100% coréen?
Alors, il y avait un peu un public de francophones coréens, d'anglophones coréens. Beaucoup parlaient coréen, même certains de mes amis parlaient parfaitement le coréen. Et surtout, c'est les personnes que j'ai oublié de remercier là, c'est la traductrice qui a fait... pas l'interprète. L'interprète était somptueuse. Elle a réussi à suivre mon débit. Les gens ont rigolé au bon moment. Donc, j'ai compris qu'elle avait réussi à traduire également les expressions, mon humour plus ou moins voilà, personnel.
Mais, suisse.
Absolument. Je crois un peu plus que suisse. À mon avis, il doit plutôt venir de la Corée. Parce qu'en Suisse, ils ne font pas des farces comme ça. Et puis aussi, on m'a dit que cette traduction donc simultanée, enfin pas simultanée mais juste consécutive, était absolument réussie, et que le texte lu par une comédienne admirable a été d'une qualité vraiment rare. Des gens qui ont compris les deux langues m'ont dit on retrouve toute la saveur, la beauté de ton écriture. Et je soupçonne que la traduction soit encore meilleure que mon texte original. Donc je suis très très heureuse.
La première œuvre de l'art que j'ai lue, c'était Made in Korea, ensuite Le Beau Monde, et cette fois-ci Polaroid, dans les deux langues. Donc c'est totalement dans le sens inverse de l'écriture et de la publication. Et la récente lecture du premier roman de l'art m'a permis de mieux comprendre ses œuvres, son univers. Mais pour nos auditeurs, Mounyang, qui n'ont pas encore pu lire ces deux ouvrages, par lesquels commencer?
Si on souhaite d'abord comprendre l'autrice, Polaroid. Et si on veut quelque chose d'intéressant, parfois drôle, pour voir comment notre culture est perçue du point de vue d'un étranger, je recommanderais Made in Korea. Et ça ne peut pas dire que pour autant que ce livre est superficiel, il est profond.
Ah, merci. Alors, sur quelle œuvre travaillez-vous actuellement et quand la sortie?
Alors, pour l'instant, il faut que je relise la traduction italienne qui va sortir prochainement, je pense au début de l'année prochaine. Et ensuite, il y a un grand roman sur un amnésique qui va paraître pour le Salon des livres de Genève. Donc, je suis en train de le relire aussi pour qu'il soit prêt à temps.
Et chez Issoup, est-ce que vous prévoyez de publier d'autres œuvres francophones?
Mais oui, je révise et publie constamment des ouvrages originaux en français. Le plus proche dans le temps, on va déguster Paris et devrait sortir au début de l'an prochain. L'année prochaine, c'est le 140e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Corée et la France. Et la France sera l'invitée d'honneur au Salon du Livre de Séoul l'an prochain. À cette occasion, on prépare beaucoup d'événements et j'espère que le Centre culturel français réussisse à inviter France à Régis Caudry. Et en même temps, ce serait une bonne occasion de promouvoir nos livres aussi.
Alors, bonne chance pour tous vos projets et merci pour cet entretien.
Merci infiniment.
Merci, merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jong-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.